Bien, prenons nos Bibles et regardons ensemble dans 1 Timothée chapitre 6. Et aujourd'hui, mon texte est à partir du verset 4 jusqu'au verset 8 du voulant. Et je voudrais vous parler de la piété avec le contentement. Voilà deux termes que nous trouvons dans notre texte. Et ce sont des termes très importants pour nous de comprendre, parce que nous savons qu'en nous-mêmes, sans l'Esprit de Dieu, aucun n'aura la piété ni le contentement. Alors c'est Paul qui écrit à Timothée comment il faut enseigner le message de la grâce de Dieu et de la doctrine de Christ, et comment ce message se distingue de ceux de faux docteurs, de faux prédicateurs. Donc ici, dans le verset 3, si nous remontons dans le contexte de 1 Timothée 6, Paul donne des avertissements à Timothée et à d'autres qui sont élevé par Dieu pour prêcher cet évangile précieux du Christ, comment il faut faire face à ceux qui prêchent un autre message et comment ce message se distingue. Je peux vous dire clairement que le message de la grâce de Dieu est distinctif. Mais il y a un autre message qui est prêché qui doit être condamné. Donc ici, dans le verset 3, Paul écrit à Timothée, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il s'agit là des doctrines qui mettent l'accent sur l'homme, sur ce que l'homme doit faire pour avoir le salut ou ce que l'homme doit faire pour maintenir le salut. Et c'est écrit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà le mot-clé de ce message parlant de la piété et le contentement, c'est écrit, et la doctrine qui est selon la piété. Quand les gens voir ce mot « piété », ils imaginent encore, puisqu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, que c'est une forme de justice ou bien même de moralité, d'exigence que l'homme doit accomplir et achever pour plaire à Dieu. Mais quand c'est écrit aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ça commence avec lui. Et rappelons-nous ce que Paul a dit à Timothée au début de ce chapitre, que grand est ce piété, le mystère de la piété. Dieu est devenu chair. Si c'était possible à l'homme de pouvoir atteindre le salut ou bien la sainteté de par ses œuvres, donc Christ ne serait pas venu. Et tout dépendrait alors de l'homme. Mais nous savons que l'homme est déchu. Et l'homme est né dans cet état de dépravation, incapable de faire quoi que ce soit pour satisfaire à la sainteté de Dieu. Donc c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour accomplir tout ce qui est nécessaire pour la satisfaction de la justice de Dieu à l'égard de ce que le Père lui a donné. Ce n'est pas pour tout le monde. Là encore, ça fait partie de fausses doctrines mentionnées ici, que Dieu aime tous les hommes, les êtres humains, sans distinction et sans exception, et que Christ a donné sa vie afin de sauver tous les êtres humains. Ça fait partie de ces fausses doctrines qui sont enseignées. Parce que, en fin de compte, ça met la décision ou le pouvoir du salut entre les mains des hommes. Si tel est le cas, donc personne ne serait sauvé, parce que l'homme n'a aucune capacité en lui-même de se repentir ou se soumettre à Christ. La pensée n'arrive même pas dans son cœur, parce qu'il est mort dans ses péchés. Donc, ça prend l'œuvre de l'Esprit d'appeler à Christ ceux pour qui Christ est mort. Si Christ est mort pour tous les êtres humains, pourtant tous les êtres humains ne sont pas alors sauvés, à quoi sert la mort de Christ dans le salut? Ça ne sert à rien. Donc, déjà, nous voyons cette distinction posée ici par l'apôtre Paul, en contraste avec, dans le verset 3, 1 Timothée 6, de fausses doctrines des hommes qui élèvent l'homme devant Dieu. Par contre, la doctrine, ou bien ici les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine, une seule doctrine de Christ qui est selon la piété. Si vous étudiez le mot piété, c'est dans son sens une vénération envers Dieu. Et c'est une expression qui décrit l'état du cœur du pécheur en qui l'Esprit de Dieu a révélé Christ et qui cause que ces pécheurs-là sont entièrement soumis à Dieu. L'idée du mot, c'est le mot crainte. Il y a une crainte qui est au fond du cœur de ceux qui sont appelés par l'Esprit de Dieu, une crainte de s'efforcer à s'approcher de Dieu d'une autre manière que Dieu lui-même a ordonné. Et il n'y a pas d'autre moyen de s'approcher que de par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les saintes paroles indiquées dans verset 3, ici, sont des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est fondé sur lui en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne la grâce de Dieu et en ce qui concerne nos vies de tous les jours. Tout provient de Christ et est attaché au Seigneur Jésus-Christ et à lui seul la gloire. L'homme n'a rien de pouvoir se glorifier, mais c'est en Christ. Donc, c'est sa vie et sa mort que lorsque l'Esprit de Christ est révélé dans le cœur, qui donne cette piété, c'est un état du cœur. Et non seulement cette piété qui est la crainte de Dieu et la vénération de Dieu, mais c'est aussi ce qui conduit le cœur dans le contentement que nous allons voir tout à l'heure. Par contre, le verset 4 nous dit que celui qui enseigne de fausses doctrines est enflé d'orgueil. Et il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oisives, oiseuses, et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions, l'homme corrompu d'entendement, privé de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Il y en a qui prétendent avoir cette piété à l'extérieur. On les voit par le geste religieux où ils se prosternent, ils abaissent la tête, ils ont toutes ces pratiques extérieures. Mais dedans, le but de tout cela, et nous connaissons que c'est ça la religion, c'est de servir Dieu pour un gain personnel. Que ça soit la popularité, que ça soit de l'argent, il y a beaucoup d'argent dans la religion où des hommes se proposent comme étant envoyé de Dieu. Pourtant, ceux qui cherchent, c'est des richesses personnelles à travers leur service et à travers leur façon d'adorer leur Dieu. Alors ici, Paul est en train de mettre Timothée en garde que les indications, les signes, comment on peut reconnaître ceux qui sont attachés aux fausses doctrines, ou les voilà, ici dans le verset 4, par en contraste avec ceux qui sont soumis au Seigneur Jésus-Christ, au lieu d'être enflés d'orgueil, la grâce abaisse. Ouais, on peut suivre tout ce qui est écrit ici et voir le contraste. Au lieu de ne rien savoir, parce que ceux qui sont vides de l'esprit, pourtant ils prennent cette Bible et ils sortent pour annoncer un message, ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas, parce que l'esprit ne les a pas révélées en eux. Par contraste, ceux qui sont envoyés du Seigneur et qui ont ces saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est par l'Esprit de Dieu qu'ils annoncent le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est avec une connaissance que Dieu lui-même leur donne à travers la parole de Dieu par rapport à ceux qui prêchent les fausses doctrines et ne savent rien. Il parle du salut, il parle du pardon du péché, il parle de Jésus, il parle de l'Esprit, il parle de la grâce, ils utilisent des termes. Mais ils ne savent rien parce qu'ils n'ont jamais expérimenté ces fruits de l'œuvre de Christ en eux. Christ n'a jamais été révélé en eux. Donc voilà le contraste. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Combien de fois nous voyons ces prédicateurs qui rassemblent leurs gens dans des conférences et ils encouragent des questions. Et on va poser des questions, les gens aiment poser les questions et ceux-là aiment répondre pour laisser l'impression qu'ils sont des connaisseurs des choses de Dieu, pourtant ils ne savent rien. Et puis, à cause de leur façon de prêcher, c'est écrit d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies. Ces prédicateurs ne sont pas en train de prêcher Christ et dire comme Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Non, ils tirent les regards sur eux. Et c'est ainsi que ceux qui les suivent tirent les regards sur eux-mêmes, que me voici, voilà jusqu'à quel état spirituel j'ai pu atteindre. Et tout cela provoque de l'envie, des querelles, des calomnies et des mauvais soupçons. Il y a de la jalousie quand les gens veulent se lever et témoigner de leur propre marche devant Dieu. Ce sont des choses qui divisent. C'est par la grâce de Dieu, en contraste, ceux qui sont sujets de la grâce de Dieu, qui n'ont rien de bon de dire d'eux-mêmes. Et ils sont humiliés par la grâce de Dieu au pied du Christ. Et chacun regarde à Christ. Donc, il n'y a pas place maintenant pour l'envie, où un est en train de regarder l'autre, pour se comparer avec l'autre, ou des querelles au sujet de différentes doctrines dans la Bible. Ils aiment discuter au sujet de certaines doctrines dans la Bible où Christ n'est pas le sujet. Pourtant, toute cette Bible a pour but la gloire et l'honneur de Christ seul. Mais ceux qui sont attachés aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, chaque fois que cette parole est ouverte, ils ont la faim, ils ont la soif d'entendre du nouveau de Christ et apprendre de lui. Et lorsque tous les regards sont sur lui, et non seulement sur l'autrui, où Christ lui-même est le sujet, tout cela fait disparaître ces discussions vaines, comme c'est écrit dans le verset 5. Et vraiment, ce sont des discussions vaines, où l'homme lui-même cherche l'honneur au lieu de donner l'honneur à Christ. Et c'est écrit des vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Voilà le problème. Si quelqu'un est corrompu d'entendement, c'est qu'il n'entend pas. C'est qu'il est mort. Et les maisons d'adoration, il ne faut pas les appeler les églises, parce que l'église, c'est le peuple de Dieu que Dieu a sauvé par la mort de Christ. Mais ce sont des lieux de culte, sont remplis de gens, mais ils sont corrompus d'entendement. Cela veut dire qu'ils n'ont jamais été nés de nouveau. Et l'esprit de Christ n'est pas en eux. C'est pourquoi ils poursuivent la voie qu'ils poursuivent. Et il faut reconnaître que tel devait être notre cas. Parce que nous ne sommes pas nés dans ce monde avec cette connaissance du Christ qui nous a donné maintenant à travers sa parole. Nous étions comme eux, morts-nés, jusqu'à ce que il a plu à Dieu de révéler Christ en nous. Mais la suite aussi dans le verset 5 démontre que ce sont des gens qui sont inconvertis. Simplement parce qu'ils se lèvent et ils s'habillent proprement, et ils s'en vont dans leur lieu de culte et ils portent la Bible. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des hommes et des femmes de Christ. Ici, c'est écrit dans leur état naturel, tel qu'ils sont nés dans ce monde, ils sont privés de la vérité. Privés du Christ. Christ ne leur a jamais été révélé. Bien sûr, ils lisent cette Bible, peut-être, mais ils lisent aveuglement. Et voilà la preuve, dans le verset 5, qu'ils n'ont pas l'esprit du Christ, parce que c'est écrit, et croyant que la piété est une source de bien. Ils se disent croyants. Beaucoup aiment utiliser ce mot, ah oui, je suis un croyant. Et même d'autres vont jusqu'à dire, je suis un croyant en Christ. Mais quel Christ? Lorsqu'on les écoute, d'où vient cette piété qui est la marque de quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix? Ça ne vient pas de nous-mêmes. Cette vénération pour Dieu, cet esprit en nous de donner à Dieu toute la gloire. Ça, c'est la différence entre le verset 3, où c'est la doctrine qui est selon la piété, selon cette grâce que Dieu a donnée à ceux pour qui Christ est mort, en contraste avec ceux qui veulent faire de la piété, et là, c'est une religion externe, d'apparence devant les hommes, mais pour une source de gain personnel. On ne peut pas en même temps se donner la gloire en ce que nous faisons et en même temps dire non, que nous servons Christ. Donc lorsque nous voyons des gens, il faut juger les mobiles de ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Est-ce que c'est vraiment pour la gloire de Christ? Ou est-ce que c'est pour être vu des hommes? Que ça soit pour être vu des hommes ou bien tirer des hommes leur bien. Il y a beaucoup qui prêchent pour chercher les biens et la richesse des autres, mais qui sont condamnés parce qu'ils sont sans Christ. C'est pourquoi Paul dit ici dans le verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ça ne parle pas ici le gain pour des raisons personnelles, mais c'est en effet, c'est-à-dire cette connaissance de Christ, avoir cette connaissance de Christ, avoir les bénéfices de l'œuvre de Christ à notre égard, c'est plus que toute autre chose que l'homme peut vouloir avoir. Peut-être qu'on poursuivait la voie du monde religieux pour un certain temps, jusqu'à ce qu'il a plu à Dieu de révéler Christ en nous. Et lorsqu'il a révélé Christ en nous, c'est là que tout a changé. Et nous avons vu que la véritable source de gain, c'est spirituel. C'est d'avoir, par l'œuvre du Christ, cette piété, cette révérence pour Christ, qui est la plus grande source de tout, même plus que l'argent, même plus que la popularité ou l'aise dans ce monde, mais d'avoir Christ et de se reposer en lui et son œuvre accomplie à notre égard, voilà la grande source de gain que la piété essaie d'ajouter aussi avec le contentement. Si nous avons Christ, nous avons tout. Donc voilà le titre de cette étude. Ça commence avec la piété. C'est révélation de Christ et tout ce qu'il a accompli pour les pauvres pécheurs tels que nous sommes condamnables. Et voilà, sa grâce domine. Et sa mort a tout accompli. Du fait que nous nous tenons devant Dieu maintenant sanctifiés, justifiés, sans péché. Ce n'est pas en nous, mais dans notre position en Christ. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Alors ce que les gens poursuivent pour gagner la faveur de Dieu par leurs œuvres et leur soi-disant vie de piété, nous avons, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons déjà. C'est pourquoi nous ne poursuivons pas ces pratiques religieuses qui exigent de l'homme de faire quoi que ce soit pour avoir la faveur de Dieu. Nous l'avons déjà. Nous l'avions lorsque Dieu le Père a choisi les pécheurs contre nous depuis l'éternité. Et nous l'avions lorsque Christ est venu et vivre cette vie de piété à notre place et donner sa vie à la croix, la substitution. Nous avons, voilà notre grande source de gain. Et lorsque l'Esprit révèle Christ en nous, c'est là que nous voyons tout ce que nous avons en Christ et nous déposons les jouets de la religion avec lesquels nous nous amusions avant. Et nous voyons que Christ est tout pour nous. Alors, nous ne cherchons rien dans cette vie pour notre satisfaction, pour notre joie, mais pourtant, même quoi que nous sommes dans cette vie, et quoi que nous n'avions pas peut-être beaucoup de choses que les hommes du monde ont, et ils pensent qu'ils ont gagné par leurs propres efforts. Mais d'avoir Christ et d'avoir la satisfaction de le connaître, cela maintenant nous donne le contentement. Alors, comme Paul le dit ici, que la piété, c'est ce que Dieu accorde à ceux qu'il a choisis, devant ou bien avant la fondation du monde, et que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir par sa vie parfaite et par sa mort efficace, afin de donner les fruits de cette mort aux siens. Et puis c'est le Saint-Esprit qui donne maintenant la foi, l'amour, l'humilité, la joie, la patience, pas dans les actes extérieurs de l'adoration, mais du cœur. Vous savez que le contentement, c'est ce qui provient du cœur, c'est dans le cœur. Il y en a qui peuvent avoir tous les biens matériels du monde, mais qui ne sont jamais contents. Ça, c'est... Et puis il y a d'autres qui n'ont rien par rapport à d'autres, mais qui sont contents puisqu'ils ont Christ. Et c'est ça qui affecte maintenant notre disposition envers d'autres. Si nous avons tout en Christ, nous n'avons pas besoin de disputes. Nous n'avons pas besoin d'envier d'autres ou d'avoir des querelles ou les calomnies ou les mauvais soupçons envers d'autres parce que nous avons tout déjà en Christ. Voilà l'effet de la grâce de Dieu à notre égard. Alors, c'est pourquoi, lorsqu'on continue à lire ici dans le verset 7, voilà l'attitude que nous avons. le pécheur qui est né de l'Esprit de Dieu. Et maintenant, tout son intérêt est en Christ et Christ seul. Et c'est l'Esprit qui révèle à ceux-là qui sont des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ déjà, à cause de Christ. Voilà la richesse qui dépasse tout. C'est la richesse de la foi. Cette foi qui déclare le Seigneur Jésus-Christ et sa mort, son œuvre efficace à l'égard des pécheurs. Lorsque par l'Esprit nous sommes donnés cette vue de Christ par la foi et nous voyons notre position en Christ, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde alors qui nous manque? Il faut dire que tout ce qui est de ce monde est temporaire, provisoire, mais tout ce qui concerne Christ est pour toujours. Donc en cela, nous nous contentons. Imaginons que c'est Dieu lui-même qui est notre héritage. Son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, nous régnons avec lui. Maintenant, quelle grâce de penser comment Dieu prend des pauvres pécheurs dépourvus de tout bien et qui fait d'eux des princes et des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. C'est de cette pensée alors que nous avons le contentement. C'est pourquoi les deux vont ensemble dans le verset 6. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Là où il y a cette piété, cette révélation de Christ, il y aura le contentement. Parce que c'est l'Esprit qui continue à tourner nos regards, quelles que soient les épreuves que nous allons vivre ici-bas. Il tourne nos regards sur Christ, et c'est en lui que nous avons cette vue, qu'il est tout, et nous avons tout en lui. Et c'est ça qui rend le contentement, la gratitude. Parce que si nous avons Christ, nous avons tout. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, voyons quelques passages pour soutenir cet enseignement. Philippiens, chapitre 4, et le verset 19. C'est là que nous lisons. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce qui nous manque alors? Si nous avons Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et si Dieu, par sa grâce, nous a donné la meilleure richesse de tout, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ, est-ce qu'il ne pourvoira pas à tous nos besoins, soit physiques, matériaux, ou surtout spirituels, selon la richesse, la véritable richesse de le connaître, avec gloire en Jésus-Christ, c'est-à-dire la gloire revenant à Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Voilà ce que c'est d'avoir tout en Christ. Aussi, si vous regardez un autre passage dans les psaumes, dans l'Ancien Testament, et le chapitre 103, même dans l'Ancien Testament, nous voyons exprimer ce que nous avons en Christ et toutes les bénédictions de Dieu en Christ. Une fois révélé dans notre cœur, qu'est-ce qui nous manque? C'est de cette piété que vient maintenant le contentement. Ce n'est pas de s'asseoir et prier au Dieu, donne-moi le contentement. Non. La prière, c'est de nous donner une vue de Christ et tout ce que nous avons en lui. Et avoir cette crainte de Dieu, de ne pas s'approcher de lui d'une autre manière que la manière révélée ici dans les Écritures à travers Christ, en Christ et pour Christ. Et ensuite vient le contentement. Ici, dans Psaume 103, le psaumiste déclare, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Regardons, le contentement, la joie vient d'avoir des yeux sur Christ. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Voilà la première des choses mentionnées, c'est le pardon du péché, qui à travers la mort du Seigneur Jésus-Christ, ayant cette grâce d'avoir non seulement quelques-uns de nos iniquités, mais ici, vous voyez, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités. Que ce soit des iniquités passées, présentes ou encore futures, que nous n'avons pas encore commises. Tout est pardonné, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre de la force qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Quelle bonne parole de lire et encore de reconnaître que tout cela vient par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors, dans le verset 7, voici la raison pourquoi la piété avec le contentement est la source de gain. La raison, c'est que, verset 7, nous n'avons rien à apporter dans le monde. Je sais que nous avons l'habitude de parler de notre maison, notre véhicule, nos biens, comme si nous les avons apportés dans le monde. Mais si nous avons quoi que ce soit, c'est seulement parce que Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné ces choses pour vivre dans ce monde. Mais ces choses ne nous appartiennent pas. On ne peut même pas dire mes enfants comme si nous les avons générés. Non. Tout cela vient de Dieu. Et la preuve dans le verset 7, c'est que la manière que nous sommes venus dans le monde nus, il est évident, verset 7, que nous n'en pouvons rien emporter. Nous avons vu à travers les funèbres des gens qui viennent et veulent enterrer le cadavre avec tous ses biens qu'il avait dans ce monde. Mais celui qui est mort n'apporte rien de ce monde. Rien de cela ne peut le servir dans la vie de l'autre côté. Tout cela reste ici. Et peu importe le nombre de richesses que quelqu'un ait pu à ramasser pendant sa vie, rien de cela n'a de valeur dans sa mort. Mais qu'est-ce qui est de valeur? Qu'est-ce qui est de plus grande source de gain? C'est d'avoir les péchés pardonnés. C'est d'être justifié par le sang du Christ, imputé au compte du pécheur pour qui Christ est mort. Rien n'est de plus grande importance que cela. Peu importe si nous vivons et nous mourons dans la pauvreté matérielle, c'est d'avoir Christ et c'est d'avoir son œuvre accomplie à notre égard qui est la grande source de gain. Parce que c'est de vivre éternellement avec Christ. Alors dès que Dieu, par sa grâce, révèle aux pécheurs, aux Christ, pour qui Christ est mort, il révèle cette vérité. Voilà que provient maintenant une véritable attitude et esprit envers Christ qui donne le contentement de se reposer en lui. C'est pourquoi Paul dit ici, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et voilà ce que je peux dire et je prie que la grâce de Dieu nous soit donnée de cette manière de dire que ce que j'ai du Seigneur. Et ce qui vaut plus que les matériaux de ce monde, si nous avons la nourriture et si nous avons de quoi apporter des vêtements, que et une maison dans laquelle nous pouvons vivre, que cela soit notre campement. Même si ce n'est pas beaucoup de nourriture, ou bien ce n'est pas une nourriture qu'on trouve peut-être sur la table d'autres qui ont une certaine richesse, mais de pouvoir simplement manger et avoir des vêtements à porter, que cela nous suffit. Et je crois que celui qui est l'objet de la grâce de Dieu voit qu'avec ça, on peut se contenter. Parce que plus que cela, c'est la grâce de Dieu et l'amour de Dieu et la joie et la foi qui donne à ce qui lui appartient. Dans Philippiens chapitre 4 encore, et je vais terminer avec ces quelques versets, Philippiens chapitre 4, l'épître de Paul aux Philippiens est un très bon épître, une très bonne épître de lire pour voir ce qui est l'objet de notre joie, c'est toujours en Christ. Et ici dans Philippiens chapitre 4 et le verset 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Paul est en train de parler de certains de ses besoins qu'il avait lorsqu'il était en prison. Il dit dans le verset 10, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Les croyants qui étaient à Philippe, il avait envoyé quelques nécessaires pour lui, nécessités pour lui pendant qu'il était en prison. Alors il est en train d'exprimer sa joie même pour ses dons. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. C'est-à-dire, ils avaient toujours le besoin de démontrer leur amour pour lui en tant que serviteur de Dieu, et on peut même dire leur pasteur, le pasteur des brebis, quoique éloigné d'eux. Mais il dit, verset 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Cela veut dire, Paul est en train de dire, ce n'est pas que je mets l'accent sur les besoins que j'ai reçus ou que j'avais et auxquels vous avez répondu, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Comment est-ce que cela est possible? C'est sachant que même en prison, avec Christ, nous avons tout. Mais, par contre, une vie de liberté sans Christ est véritablement une prison. Il sait, je sais vivre, il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Qui détermine ces choses? C'est Dieu. Il y a des fois où il nous donne abondamment en ce qui concerne les choses de cette vie. Et puis, d'autres fois, il retire tout et nous devons apprendre à vivre dans l'humiliation. Manquant des biens, ne sachant même pas peut-être où le prochain repas viendra, mais en tout cela, Paul dit, il est content. En tout et partout, j'ai appris. Vous voyez, c'est une école. Nous devons apprendre à vivre. Apprendre à être rassasié sans y mettre notre confiance dans ses biens et avoir faim. Savoir que même dans ces famines, que ça soit matériel, que ça soit spirituel, il y a des fois où Dieu nous donne un cœur de bénir avec joie, comme nous avons lu dans son 103, il y a d'autres fois où dans notre cœur c'est comme le froid. Et nous désirons, nous aspirons vers Christ qui nous donne ce pain quotidien. Mais il dit, j'ai appris à être dans l'abondance et à être dans la disette. Les temps et les saisons, c'est Dieu qui les détermine. Verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais que les hommes religieux aiment lire ce verset culinaire. Il faut que je m'efforce et que je ne perds pas la foi et que le Christ fait tout. Et ce n'est pas dans ce sens. C'est d'être soumis à Christ en toutes choses, reconnaissant que même dans la disette comme dans l'abondance, Christ est tout. Et notre joie ne dépend pas de ce que nous avons, mais de ce que nous avons en Christ. Alors je prie que le Seigneur nous encourage, nous bénisse. Quel contraste entre ce message de Christ que nous avons nous-mêmes, qui nous a appris, mais que nous avons annoncé à d'autres, par rapport aux faux docteurs qui continuent à prêcher le message, mais à la fin, ce n'est que la véritable disette spirituelle pour ceux qui les suivent. Amen.